en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Vous allez maintenant pouvoir écouter la retransmission d'une des nombreuses interventions au premier colloque consacré aux sources et origines de la séparation. C'est Monsieur Bernard Cotteret qui s'exprime. Son intervention était intitulée « Les réformes protestantes et les guerres de religion dans les origines de la laïcité ». Bernard Cotteret est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
Il y a maintenant 7 ans, lors des cérémonies marquant le quadricentenaire de l'édit de Nantes, j'avais défendu l'idée d'une filiation entre l'édit de Nantes, mettant terme en 1598 aux guerres de religion, et la laïcité. Je souhaiterais rouvrir aujourd'hui ce dossier devant vous et dire combien je me félicite que notre République ait confié à votre Académie le soin de réfléchir aux enjeux toujours actuels de la séparation de 1905 entre les Églises et l'État. Vous me permettrez d'entrée de jeu de vous dire, en citoyen conscient de ces enjeux symboliques, que la commémoration, loin d'être un exercice stérile, comme on l'entend dire quelquefois, ou purement pédagogique, est l'un des fonctionnements privilégiés de la mémoire historique. Commémorer, c'est précisément tenir à distance et en quelque sorte répéter sur le mode symbolique ce que l'on veut éviter sur le mode tragique. La laïcité naît précisément dans notre histoire de la violence. Elle en garde la trace et le souvenir et tente de les exorciser en confiant à la puissance publique les moyens de garantir la liberté des consciences, des cultes ou des expressions philosophiques contre tout abus à caractère sectaire ou partisan. La laïcité en France est une garantie de pluralisme. Vos travaux ultérieurs permettront sans doute de dégager comment, sous d'autres cieux, je pense évidemment aux autres grandes démocraties, les hommes ont appris à gérer leur pluralité politique, philosophique ou religieuse, selon d'autres modes. Mais l'on peut manquer d'emblée de souligner qu'alors même qu'elle se donne comme un idéal universel, notre conception française de la laïcité est singulière. Elle est le fruit d'une histoire qui trouve dans les guerres de religion l'une de ses illustrations les plus tragiques. C'est la raison pour laquelle j'avais intitulé mon livre, paru à l'époque aux éditions Perrin, 1598, L'Édit de Nantes, avec comme sous-titre « Pour en finir avec les guerres de religion ». Je n'ai évidemment pas renoncé à ce projet. L'on énoncera d'entrée de jeu un paradoxe. L'édit de Nantes est l'un des rares épisodes de l'Ancien Régime qu'a commémoré la République, plus mal à l'aise, avec Clovis, nous nous en souvenons, ou avec le millénaire capétien. D'où procède cette curieuse fascination pour l'un des temps forts de l'affirmation monarchique? La République, à son corps défendant, n'aurait-elle jamais renoncé à la fascination pour l'œuvre royale? L'édit peut même être considéré en un sens comme l'une des expressions les plus parfaites de la monarchie absolue. Il y a là de quoi susciter la perplexité ou l'étonnement. Le paradoxe pourtant n'est qu'apparent. Alexis de Tocqueville, au siècle passé, signalait les continuités qui poursuivaient l'histoire française de l'Ancien Régime à la Révolution. Une série de contresens poursuit l'interprétation de l'édit de Nantes en notre pays, ou du moins son image publique ne coïncide qu'imparfaitement avec sa réalité historique. Relevons quelques-unes de ces incompréhensions qui, à leur tour, à mon avis, susciteront et suscitent notre réflexion. Premièrement, l'édit de Nantes n'est pas un acte libéral. Loin d'entraîner un désengagement de l'État, il correspond à son affirmation autoritaire. Les commissaires chargés de son application seront à l'origine des intendants ancêtres de nos préfets. Deuxièmement, l'édit de Nantes n'est pas non plus une mesure destinée à favoriser les protestants. Et c'est là, je crois, qu'il y a le contresens le plus parfait. Les catholiques ont été les principaux bénéficiaires d'un édit qui n'autorise qu'à titre provisoire l'expression d'une confession minoritaire. Troisièmement, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685 est donc l'aboutissement, beaucoup plus que la négation, d'un édit temporaire destiné à terme à permettre la réconciliation de tous les sujets du roi dans une même église nationale. Et donc on voit ici combien la valeur symbolique qui s'est attachée à la commémoration a débordé le sens historique de l'événement lui-même. L'édit de Nantes instaure une paix de religion qui dura un peu moins d'un siècle, de 1598 à 1685. Il permit à terme la victoire du catholicisme majoritaire sur la foi minoritaire des Huguenots. Est-ce là véritablement ce que nous devions commémorer? Point d'interrogation. Il existe incontestablement un moment Henri IV. Le prologue de l'édit est un merveilleux texte que l'on devrait apprendre par cœur aux enfants des écoles, qui, à mon avis, n'apprennent pas suffisamment de choses par cœur. Maintenant qu'il plaît à Dieu, commencez nous faire jouir de quelques meilleurs repos. Nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à que ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service, et pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets, et s'il ne lui a plus permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec une telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux. Comment en était-on arrivé là? Il faut invoquer un long, un patient processus sédimentaire. Concluant les édits de pacification antérieurs dont elle s'inspire en grande partie, la paix de Nantes repose sur une singulière dialectique de l'oubli et de la mémoire. L'édit de Nantes naissait d'un processus sédimentaire et y reprenait les édits de pacification antérieurs qui avaient marqué la seconde moitié du XVIe siècle. Les deux tiers de ces articles étaient d'ailleurs des reprises d'édits antérieurs. Alors je ne vais pas évidemment vous faire l'histoire de ces édits, je crois que nous n'en aurions pas le temps, mais je voudrais arriver... Pardon ?
Ça sera publié.
Oui, tout à fait. Mais je voudrais arriver effectivement au texte même de l'édit et à cette singulière dialectique de la mémoire et de l'oubli qui est au cœur même de ce projet politique. Et voici ce que dit l'édit. La mémoire de toute chose passée, c'est son premier article, la mémoire de toute chose passée d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à l'occasion d'iceux, demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues. C'est absolument superbe. Et évidemment, le grand moteur de cette réconciliation nationale, j'étais particulièrement intéressé par ce qui a été dit ce matin sur la double messianité dans les manuscrits de Qumran, évidemment que l'on ne connaissait pas à l'époque, mais il y a une tradition culturelle que l'on retrouve. Évidemment, ce qui est fondamental, c'est cette façon que l'on a eue de passer du Christ roi au roi Christ. Et c'est quelque chose que l'on a superbement illustré dans le cas d'Henri IV. Là aussi, je ne vais pas pouvoir développer jusqu'au bout, mais ce qui est remarquable, c'est que Henri IV a su admirablement gérer son image public, pétré là aussi par la philosophie stoïcienne du mépris de la douleur. L'exemplarité fait en quelque sorte partie du métier de roi, nourri de récits chevaleresques, amateur passionné de l'interminable Amadis, censément traduite de l'espagnol, Henri IV est le contemporain de Don Quichotte, un Don Quichotte qui cependant n'ignore pas les réalités et s'est imposé au besoin par la ruse une inflexible volonté. La clémence, le pardon des fautes, la réconciliation des sujets, autant de témoignages de la grandeur royale. Dans la société chrétienne, ce roi qui pardonne ou qui remet les fautes est également celui qui guérit. La métaphore de la maladie, sans cesse usitée pour définir les troubles de la guerre civile, fait du roi le médecin des âmes et des corps. Elle lui confère un caractère thaumaturgique qui le rapproche du Christ. À tout prendre, la clémence, je dirais, est un excellent investissement. Elle honore celui qui la pratique et elle frappe évidemment d'infamie les réfractaires. L'édit de Nantes, ce fut avant tout cela, l'apprentissage de la coexistence par l'acceptation forcée de la différence. Non pas la tolérance au sens philosophique qui supposerait compréhension et indulgence, mais une confrontation domestiquée d'en haut par la monarchie qui littéralement impose les règles de fonctionnement. Alors là aussi, je ne peux pas vous donner tout le détail et je voudrais arriver effectivement rapidement à ma conclusion. en m'interrogeant sur cette question du devoir de mémoire, c'est cette formule qui a été utilisée récemment et parfois décriée, et en disant combien je suis attaché pour ma part à cette idée d'un devoir de mémoire et que je doublerai immédiatement d'un devoir de commémoration, si vous me le permettez. Pourquoi évoquer, 4 siècles plus tard, les guerres de religion et leur résolution ? Est-ce par quelque penchant morbide ou afin d'exorciser les passions françaises ? On ne saurait cependant limiter de cette façon le rôle de l'histoire et l'éthique de la mémoire. Nous savons bien, au moins depuis saint Augustin, qu'il entre de la mémoire dans l'oubli et de l'oubli dans la mémoire. Nous dirions de façon plus moderne que toute mémoire est sélective. Mais les guerres de religion nous enseignent une autre leçon, réactivée tragiquement notre siècle, en cette année 2005, où nous commémorons aussi la libération des camps nazis. La barbarie s'est développée au sein même de la civilisation, tout comme la religion, de façon irréfutable, a pu accoucher, à son insu peut-être, de l'idolâtrie. Aussi, l'histoire n'est-elle jamais que le récit d'une trahison des hommes et d'une éclipse de Dieu, pour reprendre la formule de Martin Buber. Qu'est-ce dès lors que ce souvenir, sinon constater l'abéance du sens au centre même de l'histoire ? Le sens n'est pas donné, le sens se construit. Il engage une dynamique et, si l'on nous permet, une volonté politique. C'est à l'école, en veillant à la transmission de la mémoire, c'est aux médias, c'est aux citoyens, d'œuvrer activement, d'œuvrer lucidement, d'œuvrer avec courage pour défendre des valeurs qui trouvent dans la République leur point d'aboutissement. La laïcité chez nous se confond avec la République même. Elle n'en constitue pas un simple attribut, mais avec la liberté, l'égalité et la fraternité, elle est le socle commun qui permet aux hommes de vivre ensemble. Vive la laïcité !